Merci d'écouter RFI. 8h à Port-au-Prince, il est 14h ici à Paris.
RFI Midi. Anne Contner.
RFI Midi, dernière partie. Nous irons en Haïti dans quelques minutes, à quelques jours des cérémonies de mémoire. Hommage aux plus de 280 000 victimes du séisme de 2010. Vous entendrez l'analyse d'un chercheur américain selon qui la manière dont a été géré l'après-tremblement de terre est liée à l'insécurité dramatique qui règne dans le pays aujourd'hui et notamment à Port-au-Prince. On parlera aussi des efforts du président sortant des États-Unis pour faire avancer son pays vers les énergies vertes et notamment en favorisant les voitures électriques. Et puis, comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer françaises. Benoît Ferrand, vous nous parlerez de ces agents de la société d'électricité en partance de la Martinique pour Mayotte.
Un long, très long voyage, mais ce sera évidemment pour la bonne cause. Les agents martiniquais resteront dans le département 101 jusqu'au 24 janvier prochain.
À tout à l'heure. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Anne Cantner et bonjour à vous qui nous écoutez.
C'était il y a un mois, jour pour jour, Bachar al-Assad était chassé du pouvoir en Syrie.
Depuis, les nouvelles autorités cherchent la confiance de la population et de la communauté internationale. Hier, le ministre des Affaires étrangères a jeté les bases d'un futur dialogue national. Mais un mois plus tard, les combats se poursuivent entre les loyalistes et les hommes d'Ayat Tahrir al-Sham, désormais au pouvoir. Les combattants pro-régime se cachent dans les montagnes alaouites, près de la côte, et mènent des offensives contre le nouveau régime. La communauté alaouite qui vit dans la région craint de se retrouver associée à ces hommes. Reportage de notre envoyé spécial Manon Chaplin à Rorbat al-Maza où de violents combats ont eu lieu le 2 janvier dernier.
Des traces de sang jonchent encore la tente. À terre, des dizaines de cartouches ont été laissées là, au pied d'un tabouret duquel Ahmad n'arrive plus à partir. Il y a quelques jours, il était assis là lorsque son père s'est fait tuer. Un alaouite sans histoire, pris en embuscade dans des combats entre les loyalistes de Bachar al-Assad et le nouveau régime.
Un combattant est arrivé par ici. Il a commencé à tirer dans notre direction. Je me suis échappé, mais mon père est mort sur le coup. Si ces combattants avaient pris des précautions, les choses auraient pu se passer différemment.
Ces combattants d'HTS recherchaient là des loyalistes cachés dans des appartements du village. Nombre d'habitants ont pris peur. Trois d'entre eux se sont fait tuer en fuyant. Mahmoud a entendu les tirs depuis son épicerie.
Pour dire la vérité, ils sont arrivés ici comme s'ils arrivaient à la guerre. Certains soldats pensaient peut-être que tous les habitants ici étaient des soutiens du régime car nous sommes alaouites. Mais c'est faux. Tous les alaouites ne soutiennent pas le régime.
Depuis, les rues du village restent vides, plus personne n'ose sortir. Selon Mahmoud, certains loyalistes se cacheraient encore parmi les habitants.
Nous avons très peur. Malgré ces incidents, nous soutenons toujours HTS car nous savons que seuls eux peuvent nous protéger. La plupart des gens ici cherchent seulement la liberté, la stabilité et la sécurité.
Il y a deux jours, trois nouveaux soldats d'HTS se sont fait tuer lors d'un combat entre loyalistes et nouveau régime, plus au nord, à Latakié. Manon Chaplin à Rorbat. Al-Maza, RFI.
La Syrie, on y consacre une journée spéciale aujourd'hui. Un mois plus tard, RFI est à Damas. Julien Coquel-Rohem, nos invités, nos reporters vous donnent rendez-vous en direct de la capitale syrienne à 17h10, temps universel.
Les frontières ne peuvent pas être déplacées par la force. Les mots du porte-parole du gouvernement allemand tout à l'heure.
Réaction de Berlin aux propos polémiques de Donald Trump. Hier, le futur président américain a réitéré ses menaces sur le canal de Panama et le Groenland, deux territoires qu'il n'exclut pas d'annexer par la force. Le Républicain tacle aussi ses partenaires de l'OTAN. Il leur demande de consacrer 5% de leur PIB aux dépenses militaires. Et aujourd'hui, Pascal Thibault, le gouvernement allemand lui répond.
Le porte-parole d'Olaf Scholz a botté en touche à la mi-journée interrogé. Il a estimé que ces questions devaient être débattues au sein de l'OTAN. Mais il fait peu de doute que le chancelier n'aura pas goûté la sortie de Donald Trump. Olaf Scholz a publiquement critiqué son vice-chancelier. La tête de liste des Verts pour les élections, le ministre de l'économie Robert Habeck, a plaidé dans une interview pour un budget de défense de l'Allemagne de 3,5% du produit intérieur brut contre 2% aujourd'hui. L'écologiste a lui ensuite reproché à Olaf Scholz d'avoir ruiné la Bundeswehr lorsque les sociodémocrates gouvernaient avec Angela Merkel. Le SPD, sur un cours plus pacifiste que les Verts, a dénoncé les exigences de Donald Trump. « C'est de la folie, nous n'avons pas besoin de plus, mais de moins d'armes », a déclaré un responsable social-démocrate. À droite, libéraux et chrétiens-démocrates sont moins remontés, mais jugent également les exigences du futur président américain exagérées. Ils estiment que l'Allemagne devra faire plus à l'avenir. Le fonds spécial de 100 milliards adopté après le début de la guerre en Ukraine pour la Bundeswehr est bientôt épuisé. Le budget courant de l'Allemagne ne suffira pas à couvrir une augmentation sensible des dépenses militaires. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Le grand allié de Donald Trump, Elon Musk, lui, fait réagir en Espagne.
Tout à l'heure, Pedro Sanchez a accusé le milliardaire d'extrême droite d'attiser la haine et d'attaquer ouvertement les institutions. Réaction du Premier ministre espagnol aux polémiques lancées ces derniers jours par le patron de X. Elon Musk s'immisce dans la politique européenne, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni, où il soutient des partis d'extrême droite. À l'écoute de RFI, il est 9h05 à Caracas, le Venezuela. Où à quelques jours de l'investiture de Nicolas Maduro, la tension ne cesse de grimper. Edmundo González Urrutia continue de clamer sa victoire à la présidentielle de juillet. L'opposant a rendu visite ces derniers jours à ses soutiens en Amérique du Sud et aux États-Unis, tournée au cours de laquelle il a promis de prendre la tête du Venezuela. Ce vendredi, il a aussi appelé les Vénézuéliens à manifester. Demain jeudi, bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Résultat, les forces de sécurité ont envahi les rues et les dirigeants de l'opposition dénoncent des actes de harcèlement.
Et fasciste, terroriste, si vous osez, vous le regretterez toute votre vie parce que nous défendrons le palais, mais ensuite nous passerons à la contre-attaque. En plus de ces menaces du ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, le pouvoir a convoqué lui aussi ses partisans ce jeudi. Et il a déjà déployé des troupes dans Caracas, massivement, armée, police, milices, agents des services de renseignement, paramilitaires, les fameux colectivos, qui circulent en ville parfois cagoulés, tandis que la télévision publique diffuse régulièrement des images des forces de sécurité. Selon les dirigeants de l'opposition, le régime chaviste procède aussi à des tentatives d'intimidation à travers leurs proches. Edmundo González Urrutia, vainqueur selon l'opposition de la présidentielle et qui promet de prêter lui aussi serment comme Nicolas Maduro ce vendredi, affirme que son gendre a été enlevé hier par des hommes cagoulés. L'opposition utilise régulièrement le mot « enlèvement » pour les arrestations. La chef de l'opposition, Maria Corina Machado, écrit quant à elle sur X que des agents du régime ont encerclé la maison de sa mère et que l'électricité a été coupée dans la zone. Maria Corina Machado est censée participer à la manifestation de demain. Sa dernière apparition publique remonte au 28 août.
Christophe Paget, l'actualité en Haïti et les conséquences des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le nord du pays. Après le déluge, les rues de Cap-Haïtien étaient en partie inondées. On y revient en longueur dans la revue de presse d'Haïti d'ici quelques minutes.
Autre catastrophe climatique en Californie, cette fois un violent feu de forêt ravage une partie de la côte ouest des États-Unis.
Un quartier huppé de Los Angeles est particulièrement touché. Des milliers de personnes ont déjà fui dans des conditions parfois chaotiques. Près de 1200 hectares sont partie en fumée. Bonjour Igor Strauss.
Bonjour Arthur, bonjour à tous.
L'incendie s'est déclaré au pire moment pour Los Angeles, balayé ces derniers jours par des vents de la puissance d'un ouragan.
Et oui, le feu s'est déclaré mardi dans le quartier huppé de Pacific Palisades, au nord-ouest de la ville, et la puissance des vents chauds, typique de l'hiver californien avec des pointes à 160 km/h, a propagé les flammes à grande vitesse. Pour l'instant, aucun mort ou blessé n'a été signalé par les autorités, mais 30 000 personnes environ sont toujours sur le coup d'un ordre d'évacuation. Plus de 250 pompiers sont actuellement mobilisés, mais les rafales de vent et la topographie escarpée du lieu leur rend la tâche extrêmement difficile. Pour les scientifiques, ces incendies sont amplifiés par les conditions météorologiques en Californie. Après deux années très pluvieuses qui ont revigoré la végétation, eh bien le sud de la Californie connaît le début d'hiver le plus sec jamais enregistré. Conséquence, tout ce qui a abondamment repoussé agit désormais comme un combustible pour le feu. Présent à Los Angeles, Joe Biden a immédiatement approuvé des aides fédérales pour la deuxième ville des États-Unis. En septembre dernier, Donald Trump, qui doit lui succéder à la Maison-Blanche, menaçait lui de couper cette aide fédérale habituellement reçue par la Californie pour lutter contre les feux de forêt.
Igor Strauss du service environnement de RFI. Et je vous laisse en compagnie d'Anne Cantner pour la suite d'RFI Midi.
Merci Arthur Ponchelet. Prochain journal à 14h, temps universel sur RFI. Et pour l'heure, nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Et on prend d'abord la direction du Brésil. À la une de votre revue de presse, Anne Verdaguet, le pays encore marqué par les émeutes du 8 janvier 2023, l'attaque de milliers de personnes d'extrême droite, des militants, contre les principales institutions de Brasilia, une semaine seulement après l'investiture du président Lula. Deux ans plus tard, il reste une question brûlante, c'est celle de l'amnistie.
Oui, le journal Folha de Sao Paulo montre des images de l'événement pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Des milliers de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro qui affluent vers le siège des trois pouvoirs à Brasilia et qui pénètrent dans le palais du Planalto, siège du pouvoir exécutif, et dans le bâtiment du tribunal suprême fédéral. Une marée humaine vêtue de vert et de jaune, les couleurs du Brésil, qui en quelques heures a détruit et saccagé des œuvres d'art, dont un tableau tableau du peintre brésilien Emiliano Augusto Cavalcanti, qui a été troué à 6 reprises. Le quotidien montre comment ce tableau intitulé As Muletas a été restauré. Il sera exposé ce 8 janvier lors d'une cérémonie de commémoration avec d'autres pièces endommagées. Mais il n'y a pas que les œuvres d'art qui demandent réparation. Le journal El Globo publie une interview de la future présidente du tribunal militaire supérieur, Maria Elisabeth Roca, qui estime qu'il est trop tôt pour parler d'amnistie pour les personnes impliquées dans cette insurrection. Une 30aine d'émeutiers ont déjà été condamnés à des peines allant jusqu'à 17 ans de prison pour tentative de coup d'État, mais tous n'ont pas encore été jugés, notamment les logisticiens qui ont permis le transport ou aidé lors de l'installation du campement devant le quartier général de l'armée. Pour celle qui aura la tâche de superviser l'enquête sur ces événements, la date du 8 janvier reste toujours une blessure ouverte qui prendra du temps à cicatriser.
Et vous nous le disiez, Anne, une cérémonie officielle aura lieu ce mercredi à Brasilia, donc la capitale, en présence du président Lula. Brasilia où il est 10h11, 2 heures de moins à Port-au-Prince et on prend la direction d'Haïti. La capitale se prépare à commémorer la pire catastrophe de l'histoire du pays, le tremblement de terre de 2010. Le drame avait choqué le pays tout entier et bien au-delà. La dévastation de Port-au-Prince, les plus de 280 000 morts, les 300 000 blessés. Cela fera 15 ans dimanche, 15 années durant lesquelles la situation sécuritaire depuis s'est considérablement dégradée. Et cela n'est pas anodin. Selon l'Américain Jake Johnston, chercheur au Center for Economic and Policy Research de Washington, la gestion du séisme n'est pas étrangère à l'éruption de violence que l'on observe depuis quelques années. Il le dit dans un livre, une enquête très fouillée qui s'appelle Aid State, parue il y a quelques mois. Il le dit aussi à Christophe Paget, qui l'a interrogé sur cette thèse selon laquelle l'aide internationale, les objectifs capitalistes des États-Unis et des Européens, ont en fait piégé et asservi Haïti.
Jake Johnston, bonjour. Au début de votre livre, juste après le tremblement de terre, vous racontez que le président haïtien n'a même pas encore contacté tous ses ministres, que les États-Unis ont déjà mis en place une cellule de crise. Selon vous, cela a beaucoup à voir avec la peur.
Je pense que de bien des manières, la réponse internationale au tremblement de terre était motivée par une certaine peur qui existe depuis le début de l'histoire d'Haïti, avec la peur d'une république noire indépendante. Et même aujourd'hui, bien que le contexte soit différent. Après le tremblement de terre, il y avait encore cette peur que dans l'effondrement de l'autorité, les pouvoirs en place, ces acteurs internationaux et cette élite locale qui contrôle Haïti depuis si longtemps, soit en train de perdre le contrôle. C'est une peur qui a eu aussi des conséquences fatales, parce que définir comme priorité la sécurité, les ressources militaires dans une situation qui exigeait une réponse humanitaire, eh bien cela a ralenti la délivrance de cette aide.
Et quand l'aide alimentaire d'urgence est arrivée, ça a été un problème pour les agriculteurs haïtiens.
Des études ont montré que ce qui détermine le niveau d'aide alimentaire des États-Unis, ce ne sont pas les besoins sur le terrain, mais plutôt les cultures américaines dont les productions sont excédentaires. C'est un programme de subvention pour les fermiers américains. On prend ces excédents et on les lâche sur les pays en développement. Et après le tremblement de terre, quand il y a eu cette arrivée massive de nourriture importée distribuée gratuitement, les fermiers haïtiens ne pouvaient tout simplement pas lutter.
Énormément d'argent a été récolté après le tremblement de terre, mais les Haïtiens n'ont pratiquement rien vu passer. Comment vous l'expliquez ?
Ce qui a été le plus choquant pour moi, c'est de constater qu'au final, une grande partie de cet argent allait à des organisations situées plus près de mon bureau à Washington que de n'importe quel groupe qui travaillait sur le terrain en Haïti. Le système d'aide que nous avons créé et que les pays riches soutiennent est en grande partie fait pour bénéficier aux pays qui développent cette aide et pas à ceux qui en ont besoin. Je ne veux pas dire que pas un dollar n'est arrivé en Haïti, mais il y a beaucoup de coûts additionnels. Déjà, il y a 20% de frais généraux pour tous les contrats signés avec les États-Unis qui reviennent au siège des entreprises. Il faut aussi engager des étrangers, payer pour leur sécurité, leur voyage, et les installer en Haïti, au lieu d'employer des locaux.
Il y a eu aussi des dysfonctionnements, le plus évident étant la construction promise par les États-Unis de 10 000 maisons destinées aux rescapés du tremblement de terre dans la région de Port-au-Prince.
D'abord, l'entreprise qui a eu le financement pour établir les plans et faire les études était dirigée par un ami d'enfance du président haïtien de l'époque. Ensuite, les contrats ne sont pas allés à des locaux, mais à des grandes entreprises internationales qui ont importé une grande partie des matériaux. Les coûts ont explosé, les retards se sont accumulés. Et le département d'État américain a déplacé le projet à des heures de trajet vers le nord pour construire des maisons pour les employés d'un parc industriel que le gouvernement des États-Unis soutenait, au lieu d'en faire bénéficier les déplacés. Pire encore, il s'est avéré que les entrepreneurs ont utilisé un ciment de qualité inférieure. Le mécanisme bureaucratique qui a occulté tout cela a permis d'assurer une impunité qui dure encore. Et cette histoire montre vraiment comment tout cela fonctionne et pourquoi cela continue.
Vous écrivez aussi que certaines compagnies ont vu le tremblement de terre comme une opportunité pour relancer les entreprises textiles à bas salaire qui avaient été très nombreuses dans les années 70 et 80 en Haïti.
C'est un modèle de développement en place depuis très longtemps en Haïti. On peut remonter à l'esclavage et à la colonisation. La population utilisée comme main-d'œuvre pour exporter des biens pour les riches habitants de capitales étrangères. Pendant la dictature des Duvaliers, Haïti était présenté avec le modèle des entreprises textiles à bas salaire comme le Taïwan des Caraïbes. C'est vrai que cela créait des emplois, mais pas de développement économique, car c'était tourné vers l'étranger. Et même si clairement cela n'a pas fonctionné, le tremblement de terre a été vu comme l'occasion d'essayer d'aller une fois de plus vers ces politiques économiques. Le plus choquant, ce n'est pas que des entreprises veuillent le faire, c'est que les États-Unis et d'autres agences d'aide multilatérales aient utilisé des milliards de dollars de fonds levés après le tremblement de terre pour financer les efforts de ces entreprises.
Vous écrivez que la politique haïtienne, y compris le choix du président, sont très influencés depuis le tremblement de terre par les États-Unis et la communauté internationale.
C'est le cas depuis longtemps, mais ce qu'on a vu après le tremblement de terre était particulièrement osé. Il y a eu une élection. La communauté internationale avait en quelque sorte décidé de mettre sur le dos du gouvernement l'échec de l'effort de reconstruction. Un échec pourtant en grande partie causé par leur propre système d'aide et leur politique. Il leur était donc essentiel de trouver un nouveau partenaire. Il y a eu un conflit autour de cette élection. La communauté internationale a envoyé une équipe de l'Organisation des États américains. Ce qu'ils ont fait était vraiment inédit dans l'histoire des observations d'élections. Sans recompter aucun vote, ils ont recommandé de remplacer le candidat arrivé second et soutenu par le gouvernement par celui qui était arrivé troisième, le populiste et ancien musicien Michel Martelly. Ce qui a facilité son arrivée au pouvoir. Michel Martelly, qui, pour en revenir à la violence et l'instabilité que nous voyons aujourd'hui en Haïti, a été accusé par les Nations Unies d'avoir financé, armé et dirigé ces gangs.
Et vous dites que ce que la communauté internationale recherche avant tout, c'est la stabilité.
Quand la communauté internationale parle de stabilité en Haïti, habituellement, elle veut dire stabilité pour les investissements étrangers et pour les élites locales. La réalité, c'est que cette stabilité, c'est très exactement ce qui génère l'instabilité dans le pays. Car ce n'est pas soutenable pour la majorité de la population. Et une très grande partie des tensions aujourd'hui en Haïti viennent de là. Cette question de la stabilité pour qui et qui au final bénéficie de ces politiques.
Vous pensez que les États-Unis et la communauté internationale ont une responsabilité dans la situation actuelle ?
Sans aucun doute. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient les seuls responsables. On parle là de la manière dont Haïti interagit avec la communauté internationale. Les États-Unis surtout, probablement, mais aussi la France, le Canada et d'autres. Ces politiques n'ont pu être mises en place en Haïti qu'avec l'accord ou l'implication d'acteurs politiques et économiques locaux qui, depuis de très nombreuses années, sont l'allié durable de la communauté internationale. Et c'est ce nexus, cette connexion qui a vraiment dominé les politiques en Haïti et qui, au final, porte la responsabilité de la situation actuelle. C'est pour cela que je pense que parler d'Haïti comme un État défaillant, c'est absolument faux. Ce ne sont pas les Haïtiens qui ont été en charge de leur pays ou capables d'en choisir la trajectoire. Elle l'a été par une petite élite locale en concertation directe avec des acteurs internationaux. C'est pour cela qu'à l'expression « fail state », État défaillant, je préfère l'expression « aid state », l'État de l'aide.
Jake Johnston, thank you very much.
Thanks for having me.
Jake Johnston, chercheur au Center for Economic and Policy Research de Washington et auteur du livre Aid State. Il répondait donc à Christophe Paget. On va rester en Haïti. où les appels se multiplient, Anne Verdaguer, face à une situation critique à Cap-Haïtien, c'est-à-dire dans la presse, Cap-Haïtien, victime de pluies diluviennes ces derniers jours.
Oui, dans une interview au Nouvelliste, l'ingénieur Raoul Lecomte, qui est aussi le directeur départemental nord du ministère haïtien des Travaux publics, Transports et Communications, appelle à la mise en place d'un état d'urgence et dénonce une administration paralysée par le manque de moyens et notamment l'absence criante de matériel pour faire face à une telle situation. La plupart des véhicules sont soit en panne, soit insuffisants pour permettre d'intervenir après chaque pluie diluvienne. Mais la problématique est bien plus profonde, souligne le Nouvelliste, qui évoque un environnement devenu invivable pour les habitants qui doivent évoluer parmi les immondices qui s'accumulent, ce qui amplifie les risques sanitaires, et cela en raison d'une gestion inadaptée des déchets et d'un mauvais drainage des eaux de pluie.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Aux États-Unis, on en parlait dans le journal il y a quelques minutes, un violent feu de forêt ravage un quartier huppé qui surplombe Los Angeles. Cela a forcé depuis hier des milliers de personnes à fuir alors que des vents de la puissance d'un ouragan posent un danger mortel selon les autorités.
Oui, on entend la reporter du Washington Post, Brianna Sachs, qui est sur place dans le quartier de Pacific Palisades au nord-ouest de la ville, où des habitants paniqués ont dû abandonner leur véhicule, explique-t-elle, sur l'une des seules routes entrant et sortant de la zone, fuyant à pied le feu qui a déjà ravagé près de 1200 hectares. Elle relate des problèmes de circulation alors que des voitures sont en feu au bord de la route et que des vents violents viennent attiser les incendies. Elle explique aussi que son père, qui vit dans les environs, a dû être évacué et qu'il est difficile pour elle émotionnellement de couvrir cet événement. Environ 30 000 personnes sont sous le coup d'un ordre d'évacuation, selon les autorités qui ont déclaré l'état d'urgence. Plus de 1 400 policiers et pompiers, pardon, plutôt, ont été mobilisés pour combattre ces incendies sans précédent, a précisé ce mercredi le gouverneur de Californie.
Anne Verdaguer, votre revue de presse à retrouver sur notre site internet rfi.fr. On reste aux États-Unis où les défenseurs de l'environnement s'inquiètent beaucoup du retour au pouvoir de Donald Trump prévu pour le 20 janvier prochain. Donald Trump, connu pour sa défense des énergies fossiles, lui qui avait fait sortir son pays de l'accord de Paris sur le climat pendant son premier mandat et qui n'a eu de cesse depuis de critiquer les dépenses engagées par Joe Biden pour une transition vers les énergies vertes. Des dépenses, il y en a eu. Joe Biden se vante d'ailleurs d'avoir mené les politiques climatiques les plus ambitieuses de l'histoire américaine, notamment via l'Inflation Reduction Act. L'un des projets, c'est de développer les véhicules électriques dans un pays où la voiture est reine des déplacements. Et c'est notre dossier du jour. Il est signé Édouard Maille.
Jérémy est installé avec sa famille dans sa voiture électrique Tesla. La voiture branchée à une borne de recharge. L'homme de 38 ans l'a achetée d'occasion, environ 62 000 $.
Pour plusieurs raisons. C'est pratique. J'adore ne plus être obligé d'aller à la station essence. C'est l'avenir du monde et j'économise. Je gagne entre 300 et 400 dollars par mois.
Pour cette voiture achetée il y a un an, il va bénéficier d'une déduction fiscale permise par la politique de Joe Biden pour encourager l'achat de voitures électriques.
On va avoir une déduction fiscale de 5 000 $, mais on allait de toute façon l'acheter. Je pense que c'est une bonne chose.
Et ces mesures ont porté leurs fruits. En 2023, le nombre de ventes de véhicules électriques a augmenté de 50% par rapport à l'année précédente pour atteindre 9,2% des ventes totales pour les véhicules neufs. Le chiffre correspond aux attentes les plus optimistes, mais c'est encore loin de l'objectif fixé par Joe Biden que la moitié des véhicules neufs vendus soient électriques d'ici 2030. Une des difficultés est le prix. En moyenne, une voiture neuve à essence coûte 48 000 $ contre 55 000 pour une voiture électrique, comme l'explique la chercheuse à l'université Georgia Tech, spécialiste des voitures électriques, Constance Crozier.
Je dirais que l'Inflation Reduction Act et les politiques sont orientées vers les véhicules électriques haut de gamme. Et ce qu'il manque sur le marché américain, ce sont des voitures plus basiques et économiques. Elles seront en partie vendues sur le marché d'occasion. Mais pour atteindre 50% des ventes, il ne faut pas seulement se focaliser sur le coût d'une voiture neuve, parce que la plupart des gens qui achètent une voiture ne l'achètent pas neuve.
Parmi les raisons de ce coût trop élevé, les difficultés d'approvisionnement en batteries électriques. Or, Joe Biden a favorisé leur fabrication sur le sol américain. En 2019, il y avait seulement 2 usines de batteries électriques dans le pays. Il y en a désormais 34 de prévues en construction ou opérationnelles, en partie grâce à des déductions fiscales. Or, avec Donald Trump, leur avenir est remis en question. Le républicain veut tailler dans les dépenses publiques et a fait de l'usage du pétrole un argument de campagne. Mais pour Kurt Thompson, le chef de l'organisation environnementale Sierra Club pour la Géorgie, il sera difficile de détricoter les politiques du démocrate, car les promesses d'aide financière sont déjà faites. Reste une incertitude majeure, la poursuite de ces investissements.
Le problème, c'est la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on fait après? Car on a planté beaucoup de graines, mais comment les plantes vont continuer à pousser? Par exemple, ici, on dépense beaucoup d'argent pour que l'entreprise Rivian vienne s'installer. C'est une entreprise de camions électriques. Mais si l'argent disparaît, est-ce que ces entreprises resteront? Car il y a toujours un besoin pour encourager le développement de véhicules électriques pour des batteries qui durent plus longtemps. L'une des raisons de la chute des ventes de véhicules électriques d'occasion par rapport aux véhicules à essence, c'est justement parce que remplacer les batteries, c'est très cher, donc il faut changer la technologie autour des batteries ou il faut qu'on les remplace. Et s'il n'y a pas d'argent pour la recherche et le développement, alors ce travail s'arrêtera.
Mais Kurt Thompson le souligne aussi, les effets des politiques de Joe Biden pourraient finir par se voir pendant la présidence de Donald Trump, lequel pourrait s'en attribuer les mérites.
Dossier de notre correspondant Édouard Maille à réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio.
Le journal de l'Outre-mer.
Et l'on retrouve Benoît Ferrand. Benoît, 9 agents EDF en poste en Martinique s'envolent aujourd'hui pour l'autre bout de la Terre, vers Mayotte, dans le sud de l'océan Indien.
Un long, très long voyage, mais c'est évidemment pour la bonne cause. Les agents martiniquais resteront sur place jusqu'au vendredi 24 janvier. Antonio Nancy est le responsable de la base d'intervention de Rivière-Salée. Il est au micro de Franck Edmond Mariette.
La mission de ces hommes, c'est l'alimentation électrique. Bien sûr, ils ont un fort engouement pour y aller, pour pouvoir aider, je dirais, nos compatriotes mahorais, pardon. Et voilà, donc leur mission, c'est la réalimentation des réseaux. Nous avons 9 agents qui vont partir avec des profils différents, donc un profil logistique. Nous avons un profil accès aux ouvrages, donc des gens qui vont aider à la délivrance pour qu'on s'assure que les travaux soient réalisés en toute sécurité. Nous avons aussi un profil de préparateur, donc ils vont aller sur le terrain, regarder ce qu'il faut pour pouvoir que les équipes derrière qui vont intervenir puissent réaliser les travaux. Et bien sûr, une équipe travaux.
Ils vont travailler en coordination.
Voilà, ils vont. Alors, nous venons avec des compétences, nous venons avec de l'outillage, et sur place, ce sera organisé par EDF de Mayotte.
Direction la Guadeloupe avec le JMP qui s'étend hélas inexorablement apparu en 2021. Le jaunissement mortel du palmier concerne désormais 9 communes de l'archipel guadeloupéen. La dernière en date étant Grand-Bourg de Marie-Galante. Reportage de Pascal Pétrine avec Aurore Cavalier de la Fredon, la Fédération de défense contre les organismes nuisibles.
Cette maladie, véhiculée par un insecte minuscule qui ressemble à une petite cigale, contamine l'arbre et est très contagieuse puisqu'elle entraîne son abattage immédiat pour éviter toute propagation, ce qui représente un coût à la fois pour les particuliers mais aussi pour les mairies.
Un cocotier abat, c'est de l'ordre de 200 à 300 euros par arbre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être onéreux pour certaines personnes.
Quant à la lutte contre cette propagation, elle ne peut se faire que par la sensibilisation, car il n'existe à ce jour aucun traitement pour éradiquer ce nuisible.
Il n'en existe pas du tout. La réglementation française ne permet pas la lutte, donc il n'y a rien de disponible. Aux États-Unis, il existe des méthodes alternatives à base d'antibiotiques, mais c'est quelque chose qui, au sein de l'Union européenne, est interdit.
Reste donc la prévention et la sensibilisation du tout public et des agriculteurs pour aider à la détection des symptômes, puis à l'abattage des arbres malades.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission de ce mercredi était réalisée par Vincent Biteau. On se retrouve demain, 11h30, temps universel. Et puis je vous rappelle, ce soir, 17h10, temps universel, édition spéciale en direct de Damas. Très bonne journée.
RFI, la sélection du mois.
Maureen.
Papito fait plus fort, méchant corps à corps. Make it chop, on nous fait sport. Papito qui calor, dans la vente à dents. Oui, t'en veux encore, encore, encore. C'est clean, faut tout manger. Six o'clock, baby, la faut dégager.
Me gusta tu onda, la manera que piensa. Somos diferentes, pero no miente la ciencia. Lo opuesto se
arraña. DJ Sinsuela y Ana
Tijoux. RFI Musique.
Ce mercredi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Crise climatique, faillite de l'économie, pandémie, le monde est source d'anxiété. En Autriche, un quart des jeunes filles souffrent de dépression. Gouvernement et associations ont lancé une vaste campagne de prévention.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.